Mémoire vive,
présenté par Stéphane Bou
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Dans la RFA d'Adenauer, alors que beaucoup veulent, selon l'expression du chancelier, tirer un trait et laisser le passé derrière soi, un homme prend la parole à la télévision et dit « L'Allemagne aujourd'hui est fière de son modèle économique. Elle est également fière d'être la patrie de Beethoven et de Goethe. Mais, ajoute cet homme, Fritz Bauer, qui n'est autre que le procureur général de Francfort, l'Allemagne est aussi la patrie d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes. Je crois que les jeunes générations sont prêtes à découvrir toute l'histoire et toute la vérité, mais qu'en revanche, leurs parents ont beaucoup de mal à faire face. » Comment pousser l'Allemagne à faire face? Et comment juger les criminels les plus importants qui avaient pour beaucoup d'entre eux repris une vie normale après la guerre, comme si de rien n'était? Personne ne s'est posé ces questions avec autant d'intensité que Fritz Bauer, juif né à Stuttgart en 1903, militant anti-nazi de la première heure au sein du Parti social-démocrate allemand, qui s'exila au Danemark en 1936 avant de revenir en Allemagne en 1949. À partir de ce moment, sa vie témoigne peut-être de cet impossible retour, pour reprendre le titre du livre dans lequel Olivier Guèze raconte l'histoire passionnante des Juifs en Allemagne après 1945. Olivier Guèze, qui fut d'ailleurs le co-scénariste de Fritz Bauer, un héros allemand, fiction de 2015 réalisée par Lars Krohm. Fritz Bauer est aujourd'hui le sujet de Fritz Bauer, un procureur contre le nazisme, documentaire de Catherine Bernstein, coécrit par Nicole Barry, que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui. Alors, bonjour Nicole Barry.
Bonjour.
Alors vous êtes germaniste, spécialiste de littérature allemande, vous êtes une traductrice de nombreux auteurs. Je viens de citer le film Fritz Bauer, un héros allemand, mais j'aurais pu aussi citer le Labyrinthe du silence qui raconte comment a été monté le dit procès d'Auschwitz qui s'est tenu à Francfort entre 1963 et 1965 et dont Fritz Bauer fut le maître d'œuvre. Alors cette série de films témoigne de la lumière mise sur un personnage qui a été longtemps mal connu, en tout cas hors d'Allemagne, hein, où il a été un personnage public dès la fin des années 50. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était cet homme, qu'est-ce qu'il représente en Allemagne et pourquoi, au fond, il vous semble que, enfin, il nous semble que depuis quelques années, sa célébrité, enfin, sa lumière dépasse le seul cadre allemand.
Oui, Fritz Bauer est celui grâce à qui les procès d'Auschwitz ont eu lieu, celui grâce à qui Eichmann a pu être enlevé par le Mossad en Argentine. Autrement dit, c'est quelqu'un qui s'était donné comme mission quand il est revenu en Allemagne, non pas de se venger, comme les Américains ou les Allemands le craignaient, mais de confronter les Allemands avec leur passé et d'éduquer la nouvelle génération.
Ça, c'est son objectif.
C'est son objectif.
Tout de suite, on pourrait dire.
Tout de suite.
Dès qu'il rentre.
Même avant, parce que dès 1945, il tient un discours enflammé à Stockholm devant, alors, plutôt la communauté social-démocrate, c'est la communauté des émigrés, mais enfin, il était surtout dans le milieu social-démocrate. Et c'est sa théorie, c'est sa thèse de base. Il faut retourner en Allemagne parce qu'il faut éduquer les jeunes générations. Il faut d'abord que l'Allemagne soit confrontée à ce qu'elle a fait, mais il faut aussi aider cette jeune génération à devenir démocrate. Et c'est la mission qu'il s'est donnée à lui-même. Et c'est pour ça qu'il revient en Allemagne. Et bien sûr, il est juriste, donc il veut revenir comme juriste. Et il veut revenir, certainement pas comme au début à Braunschweig pour être directeur d'un tribunal, mais il veut revenir comme acteur. Et donc, procureur, quand il arrive et quand il est nommé procureur à Francfort, il a bien sûr, il est dans la plus grande juridiction d'Allemagne. Il a presque 200 procureurs sous ses ordres. Et c'est son idée fixe. Dès qu'il arrive à Francfort, il essaye, parce que c'est dans sa juridiction, d'arrêter Mengele. Mengele est très très souvent près de Stuttgart, dans une petite ville où est sa famille. Mais comme à l'époque, l'essentiel des magistrats, disons 80%, 90%, la majorité des policiers sont des anciens nazis qui ont été réinsérés dans le nouveau système. À chaque fois qu'ils délivrent un mandat d'arrêt, Mengele s'est évaporé. Enfin, il n'arrive pas à mettre la main dessus. Et après, je vais dire, le hasard le sert, parce qu'il y a ces deux documents qui lui arrivent dans les mains, il ne pouvait pas souhaiter mieux. L'un, c'est la lettre de cette personne qui a immigré bien avant le nazisme en Argentine, et qui écrit que vraisemblablement il a identifié Eichmann, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les documents qui ont été récupérés près du camp d'Auschwitz, et où les nazis, c'est fou d'ailleurs. Sur ce document, il y a non seulement les noms des détenus qui ont été assassinés, mais il y a le nom des SS qui les ont assassinés. On a du mal à s'imaginer la perversité de la bureaucratie. Et c'est une des raisons pour lesquelles Bauer, dans son désir de mettre devant un tribunal allemand des responsables d'Auschwitz pour qu'on voit quel était le système dans son intégralité, il veut avoir dans ce prétoire aussi bien le commandant second du camp que des bureaucrates, des médecins, un pharmacien, le type qui était responsable du vestiaire. Il veut que l'essentiel de l'éventail de toutes les professions qui étaient représentées et qui ont eu un rôle soit représenté, parce que, pense-t-il, tous ceux, quelles que soient leurs fonctions, qui ont participé, sont coupables.
Oui, son obsession, c'est de, comme il le dit et comme le montre bien le film, désindividualiser les inculpés.
Oui.
Penser la machine criminelle comme un tout et essayer de ne pas désolidariser les uns des autres à l'intérieur de cette grande machine. C'est son objectif qui va être d'ailleurs voué à l'échec, on peut le dire, puisqu'il ne va pas réussir à aller jusqu'au bout de cette logique-là.
Et c'est son objectif et il n'arrive pas à aller au bout de cet objectif qu'il s'était fixé, parce que le droit juge des personnes, des individus, mais on ne juge pas une construction. Alors, je vais dire une construction intellectuelle, le nazisme, mais pas seulement une construction intellectuelle. Mais au départ, si, il y a une construction intellectuelle et l'application de cette construction. Et donc, on ne juge pas une idéologie, on ne juge pas des idées, on ne peut juger que des personnes. Et là, on se heurte au droit allemand, au code pénal tel qu'il est en vigueur à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, le crime contre l'humanité n'est pas reconnu, donc on ne peut pas les accuser de crime contre l'humanité. On peut les accuser de meurtre ou de complicité de meurtre. Or, un meurtre qui est commis parce qu'on a reçu l'ordre de le commettre n'est pas considéré comme un homicide involontaire. Mais ce n'est pas un meurtre. Et pour la complicité de meurtre, il faut avoir des preuves. Or, dans le tribunal de Francfort, on est parole contre parole. Il y a la parole de ceux qu'on appelle à tort les témoins, c'est les survivants, et de ceux qu'on appelle les prévenus, qui sont les accusés, et en réalité, les tortionnaires.
Mais d'ailleurs, ce qui est passionnant, et ça vraiment c'est quelque chose qui est très sensible dans le récit que vous faites, c'est que derrière ce problème, qui est un problème de droit, un problème juridique, il y a un problème de fond, qui est comment articuler la minorité criminelle nazie avec la majorité du peuple allemand dans son ensemble. Et on sent que le débat qu'il ne cesse de lancer porte sur cette question-là. Est-ce qu'il y avait une minorité qui emmenait la majorité? Est-ce que la majorité suivait derrière? On sent que c'est un énorme débat, et je pense que vous qui êtes effectivement traductrice de la littérature allemande, c'est quelque chose qui pénètre toute la question du cinéma, de la littérature allemande, de savoir comment effectivement penser voilà, ce qui était l'état de la population allemande en général par rapport à la criminalité nazie, comme effectivement comme un groupe d'acolytes, comme il le dit dans le. Et la plupart des débats, je remarque dans les archives qui passionnantes, où on le voit parler à la télévision, touchent à cette question-là.
Oui, et puis il y a de nombreux livres qui ont été écrits sur cette question-là. C'est une question qu'on ne cesse de se poser. C'est difficile d'évaluer dans l'ensemble de la population exactement comment ça s'est passé dans la conscience de chacun. Pour Fritz Bauer, sans rentrer dans l'ensemble de la population, il voulait vraiment rentrer dans la machination criminelle. Et il voulait montrer à quel point, d'abord, cette, Ce système qui est symbolisé maintenant par le nom d'Auschwitz, ce système exterminatoire avait été pensé, conçu avec une logique d'une grande perversité ou une cohérence d'une grande perversité. Et dans laquelle, et dans, à l'intérieur de ces systèmes, tous ceux qui avaient de près ou de loin participé, même ceux qui n'étaient pas au camp, qui depuis Berlin donnaient leurs ordres, tout le monde était dans la même culpabilité. Et bien sûr, la Cour ne l'a pas suivi.
Il voulait aussi montrer qu'on pouvait, et qu'on devait d'ailleurs, disait-il, être résistant. C'est-à-dire que là, on parle des procès des années 60, de 62-63, mais moi j'ai appris beaucoup de choses sur le procès de 1952 de Otto Rehmer, qui devait être un petit procès sur un problème d'injure publique et de diffamation, et qu'il arrive à constituer par la force de son talent, on pourrait dire de publiciste au bon sens du terme, à faire un grand débat public sur la résistance en Allemagne. Où là, vraiment, il dit on devait être résistant, là où Rehmer disait je suivais des ordres. Et donc, cette question de la résistance dans un pays où on disait, mais finalement, la résistance, c'était aussi une manière de plier, puis on n'était pas nazi, mais on ne pouvait rien faire, lui montrait que voilà.
Ah oui, dans les interventions qu'il fait auprès des étudiants, par exemple, il répète toujours ça. On a le devoir de dire non. Et on a le devoir de dire non quand l'ordre est injuste. Et pour le procès Rehmer, vous avez raison de le souligner.
C'est 52.
Tôt, hein. En réalité, bien sûr, c'est un tout petit procès parce que Rehmer est vraiment un sous-fifre. Enfin, bien que Rehmer s'est fait une grande réputation en arrêtant les Oblender Block.
Pour rappeler qui était Rehmer, c'était l'homme à qui on avait demandé d'arrêter Goebbels,
voilà.
les conjurés de juillet 44, qui a refusé et qui restait fidèle à Hitler contre les tentatives de coup d'État de juillet 44.
C'est même plus drôle que ça si on veut, parce que il était parti du bureau de son supérieur pour aller arrêter Goebbels. Quand il est rentré dans le bureau, Goebbels était au téléphone avec Hitler et il a immédiatement changé son fusil d'épaule et il a dit qu'il était venu pour l'arrêter alors qu'il n'était pas du tout venu pour l'arrêter. Mais il est devenu comme ça un personnage célèbre et ensuite un personnage dangereux après 45, parce que c'est lui qui a recréé le premier parti néo-nazi. Et dans les enregistrements, il y a des enregistrements sonores des réunions du parti, c'est exactement le ductus verbal des manifestations à l'époque du Troisième Reich. Ce sont les mêmes chants, ce sont les chants nazis. C'était vraiment un parti très dangereux que Adenauer a fini par interdire.
Et d'ailleurs, il va partir en Espagne et il sera un négationniste par la suite. Oui. Non, ce qui était intéressant avec ce procès Rehmer, c'est de voir comment on pourrait dire que Bauer instrumentalise les procès qu'il instruit à ce moment-là pour provoquer des débats au sein de la société, de secouer cette société. Et donc, il faudrait peut-être revenir, que vous nous rappeliez ce qu'il en était d'une mémoire allemande de la Shoah après-guerre. Il y a l'idée qu'effectivement, Fritz Bauer participe du mouvement par lequel il s'agit de sortir d'une ère du silence, quoi.
Oui, enfin, je dirais qu'il est l'initiateur presque, parce que il y avait une énorme chape de plomb. On n'en parlait pas. C'était comme si l'Allemagne était sortie d'un long sommeil et on savait pas trop pourquoi il y avait des ruines partout, mais personne voulait s'apesantir dessus. Et puis il y avait des éléments politiques. Les premiers, c'était l'attitude des alliés, en particulier les alliés américains, qui avaient dit qu'il fallait plus humilier l'Allemagne parce que c'était un grand marché et qu'on en avait besoin. Bon, un argument comme un autre. Ensuite, il y avait la phrase que vous avez rappelée d'Adenauer, qui était aussi pour qu'on enterre le passé, on n'en parle plus. Et il y a eu tout de suite après, enfin dans les années 50, immédiatement dès le milieu des années 50, ce miracle économique où on a commencé à voir, à retrouver des choses dans les magasins, à voir les gens acquérir des biens de consommation. Donc, de la torpeur des premières années d'après 45, on était rentré dans une période de consommation à tout craint. Et Fritz Bauer donne... Enfin, c'est un électrochoc, vraiment, avec lui. Alors, déjà avec le procès Rehmer...
Il est un peu ce personnage, comme dans les dîners de famille, qui vient rappeler qu'il y a un secret. Tout le monde est au courant, mais il faut
pas le dire.
Tout le monde se tait, mais il faut pas le dire. Et lui, il arrive dans le repas pour dire, attendez... Attendez les gars, il s'est passé quelque chose.
Oui, parce que...
Mais cet homme-là... Hein.
Quand il réhabilite les conjurés du 20 juillet, il faut voir que le pays entier les considère comme des traîtres. Et donc, c'est un renversement complet des mentalités. Ce qui ne veut pas dire que ça soit rentré dans toutes les mentalités et que dans toutes les familles, on ait expliqué qu'effectivement, il fallait considérer les conjurés du 20 juillet autrement. Mmh. On a considéré encore très très longtemps à les considérer comme des traîtres. Mais après, avec les procès d'Auschwitz, on prononce le mot. C'est ça qui est important. Et j'ai l'impression qu'en France, quelquefois, on comprend bien, on prononce le nom d'Auschwitz, qui devient bien sûr l'emblème, enfin la figure symbolique pour les autres camps d'extermination. Et jusque-là, on parlait de camps de concentration, mais on ne parlait jamais de camps d'extermination, et on n'employait pas le mot Auschwitz non plus, on ne prononçait pas le nom, pour deux raisons qui ne sont pas bonnes, mais qui sont deux raisons. Un, Auschwitz était en Pologne, après les nouvelles frontières, et deux, les archives des camps qui étaient à l'Est, qui étaient en Pologne maintenant, se trouvaient soit à Moscou, soit à Varsovie, soit à Berlin-Est. Donc, il y avait peu, même ceux qui auraient voulu ou qui ont essayer de faire des recherches, difficiles à l'époque certes, n'aurait pas eu accès à ces archives. Mmh. Donc il y avait un blackout total, complet. Tout d'un coup, bon, les Allemands sont face à cette réalité qui n'a rien à voir avec les camps de concentration qu'on connaît et les détenus politiques. On est dans cette autre chose.
Mmh. Je réfère allusion à une séquence qui m'avait, enfin, au film Le labyrinthe des silences, que j'avais rapidement évoqué tout à l'heure, donc le film de Giulio Riccacielli qui raconte le procès Auschwitz. Et la figure de Fritz Bauer dans ce film, c'est une silhouette secondaire. Et l'action, elle était conduite par l'un des multi-magistrats qui travaillait sous ses ordres. Et on avait le sentiment, dans le film, hein, qui est problématique, à mon avis, pour cette raison, comme mu par la seule volonté de film maintenant de ce procureur sous les ordres de Fritz Bauer, effectivement, qu'on voit très peu dans le film. C'est bien qu'on a le sentiment que la réussite finale lui semblait pour l'essentiel imputable à lui. Et donc le sentiment bizarre qui était donné, c'était l'idée que un vrai Allemand, je veux dire par là non-juif, c'est lui qui va briser le silence. Moi, la question que je voudrais vous poser, en repensant notamment à ce que vous disiez tout à l'heure sur ces remigrants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Allemands qui n'étaient pas, ont quitté l'Allemagne et qui reviennent en Allemagne après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de Juifs. Beaucoup ne sont pas... Enfin, Fritz Bauer, lui, a tenu à le faire. Déjà, c'est un geste qui veut dire quelque chose. Mais ma question, c'est, est-ce que vous pensez que contrairement à, on pourrait dire, à l'image d'Épinal que voudrait donner le film Le labyrinthe de silence, à savoir c'est de l'intérieur que l'Allemagne va briser le silence, ce qui est faux, est-ce que ça pouvait être autre chose qu'un juif allemand hein, qui fasse le travail qui a été fait à ce moment-là? C'est évidemment une question d'imagination, mais j'aimerais avoir ce sentiment parce que qui ne serait pas venu si j'avais pas vu dans le film ce désir de montrer effectivement de périphériser Fritz Bauer comme juif.
Alors je sais pas exactement quelle était l'intention du réalisateur dans ce film. Le fait est que Fritz Bauer a travaillé avec 4 jeunes procureurs parce que c'était les 4 seuls dans l'ensemble de ce tribunal qui n'avait pas été compromis par le régime précédent. Donc, je dirais qu'il n'avait pas beaucoup de choix. La seconde chose, il était très conscient, d'autant plus conscient qu'il recevait sans arrêt des lettres d'injures et d'insultes, et il était très conscient qu'il ne fallait pas que ce procès soit perçu comme le fait d'un procureur juif qui était revenu et qui allait, même avec des voies légales, faire justice. Bon. Donc, il met la machine en route.
Et en même temps, je fais une micro-parenthèse, excusez-moi de vous interrompre, parce que c'est quelque chose d'important de sentir à quel point il est vraiment en territoire hostile. Il dit, quand je sors de chez moi, je suis en territoire ennemi. Et en fait, moi, ce que je trouve très, très émouvant chez Fritz Bauer, c'est cette image d'un juif allemand qui veut retrouver une Allemagne où il se sentirait chez lui. voilà, celle de Goethe et de Beethoven dont il parle dans la première citation, celle, voilà, c'est un, voilà, c'est cette Allemagne-là qu'il veut retrouver.
Oui, alors, c'est peut-être une parenthèse, mais il n'est pas le seul dans cette disposition d'esprit, parce que, enfin, moi, je connais beaucoup de, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances qui ont cette même, enfin, qui voulaient retourner à tout prix, qui ont voulu retourner en Allemagne, parce que l'Allemagne, quoi qu'il soit passé, malgré l'émigration, malgré la Shoah, l'extermination, c'est leur pays, c'est leur culture. Bon, ils voulaient y retourner. Donc Fritz Bauer, c'est évident qu'il voulait, il voulait retourner. Maintenant, est-ce que ce procès aurait pu avoir lieu ou aurait pu être mis en route par quelqu'un d'autre? Je pense qu'il fallait quand même un homme de sa génération qui avait vécu tout ce qu'il avait vécu. Pour avoir le courage, l'initiative et le courage de le faire. Il fallait quelqu'un de profondément humaniste, donc qui ait une culture derrière, une culture qui lui vient probablement de ses deux racines, la racine juive et la racine social-démocrate, les deux qui se conjuguent.
Au moment où vous dites humaniste, profondément humaniste, je pense à ces nombreuses citations d'archives qu'on voit dans le film où il dit être humain, être humain, oui. Être humain. Et ce qui est très beau, c'est la citation, l'archive dans lequel, où il dit au fond, ce qu'il attend dans le procès, c'est une parole humaine.
Et cette parole humaine n'a pas eu lieu. C'est pour ça qu'on pose souvent la question pour savoir si il a été déçu ou pas, si c'était un échec ou pas. Il a certainement été déçu parce que ce qu'il attendait, et là je me dis que c'était aussi un idéaliste. Il s'attendait à ce que l'un des accusés se lève et dise « Je reconnais que j'ai été coupable ».
Mais est-ce qu'il a employé... Je crois que devant les peines dérisoires qui ont été données à beaucoup des SS, des 22 SS jugés lors du procès d'Auschwitz, je crois qu'il emploie le mot « ce verdict est une tragédie ». Je crois qu'il emploie cette expression-là.
C'est possible.
Sur la question de la déception. Il y a quelque chose de profondément meurtri, de déçu par.
C'est indéniable, ça. D'ailleurs, le verdict est ridicule, quoi. C'est sûr.
Je vais. Bon, malheureusement, il nous reste qu'une petite minute. Je voudrais vous poser tout simplement la question qui est posée à la fin du film, quand on. Catherine Bernstein pose à un des biographes de Fritz Bauer, est-ce que c'était pour vous un succès ou un échec que l'entreprise de Fritz Bauer? Et elle dit oui et non, vous, pour vous, succès ou échec?
Moi, je dirais, malgré le verdict ridicule, c'est un grand succès. Parce que ce qui s'est passé dans les années suivantes, c'est dû aussi à ce que Fritz Bauer a initié. Et il y a un autre phénomène qui s'est produit juste après le procès, si on peut appeler ça un phénomène, mais Peter Weiss a écrit en servant des minutes du procès cette pièce de théâtre, L'Instruction, et le choc qui avait déjà été très grand au moment du procès
a été
intensifié d'une façon incroyable par la mise en scène de la pièce de Peter Weiss.
Je vous remercie beaucoup, Nicole Barry. Je remercie Catherine Bernstein qui n'est pas avec nous, mais vous êtes la co-auteur de ce film qu'elle a réalisé. Donc, Fritz Bauer, un procureur contre le nazisme, qui a été projeté récemment au mémorial de la Shoah en avant-première, avant d'être diffusé sur Arte à la rentrée après l'été. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.